there because I'm running fishing Queto, so I'm in New York City with Ponti, le 19 février 2002. Voilà. Bon, tout d'abord, je voudrais vous parler bien comment son mot est français. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez appris ces trois différents langues?
Merci bien, madame. En cas, le français, le cerveau, donc c'est une langue maternelle. Dès la naissance, on commence déjà à nous parler, surtout notre maman. Donc on commence à nous parler, donc on comprend mieux de façon, le cerveau, dès le bébé, en grandissant. Donc, le français, naturellement, c'est ce que j'ai vécu quand on m'a mis à l'école. À l'école maternelle, j'ai commencé à écouter bonjour, ouais, comme bonjour, comment ça va, donc on a commencé à appeler comme ça. Et à l'école, en commençant par le CP1, donc le français, j'ai commencé à appeler par l'intercession de mon père, surtout quand je vais à l'école, je reviens, je me dis, qu'est-ce que vous avez fait à l'école, fais-moi voir ce que tu as fait à l'école. Donc je lui montre ce que je fais à l'école. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on a commencé à parler français. Et le Yakoma, moi j'ai essayé de comprendre ce mot dès à bas âge. Donc j'ai commencé à parler la langue Yakoma à l'âge de 15 ans. Quand mon papa m'a envoyé chez eux, là où il est né, à Wango, il m'a dit, va aller voir là où je suis. C'est ce que mon papa a dit. Et quand j'étais partie là-bas, c'est là-bas que j'ai trouvé les grands-parents, les mamans. Et c'est eux maintenant qui m'ont appris à parler Yakoma. Et j'ai commencé à essayer de parler Yakoma comme je suis revenu. J'ai commencé à parler anglais depuis 2 mois depuis là-bas. Et quand je suis revenu, j'ai commencé à parler un peu Yakoma jusqu'à maintenant. Et comme j'ai épousé aussi mon mari aussi Yakoma, dans les belles familles aussi, on parle. J'ai parlé à comment.
Bon, avec dans la vie de tous les jours, avec vos enfants, votre mari, vous parlez quel langue?
Non, chez moi, à la maison, c'est seulement avec mes enfants, on parle français. Les enfants, on est obligé aux enfants de parler français. Puisque, donc, à l'école, il faut qu'ils parlent français. Ça leur éduquer à parler français pour vraiment, ça leur aider à comprendre bien ce que les professeurs disent à l'école. Donc, on a exigé à la maison avec mon mari que les enfants parlent français. Et ensuite, ça de temps en temps. Mais là, il y a comment difficile pour les enfants, ils comprennent seulement qu'ils ne parlent pas.
Donc, vos enfants, ils parlent sango et français. Mm-hmm. Alors, dites-moi dans votre vie de tous les jours, dans quelle situation est-ce que vous utilisez le français? C'est-à-dire, il y a comment les français le sango? Est-ce que vous allez au marché, vous parlez quelle langue? Au travail, vous parlez quelle langue? Dans les différentes situations.
Merci, bien matin. Travail, donc moi je suis obligé de parler français, puisque moi je reçois les gens, je suis avec mes patrons, je suis avec mes collaborateurs, je suis avec les étudiants, donc absolument il faut parler français. Donc à la maison et au marché, on est obligé de parler sango pour discuter les prix avec les gens. C'est automatique, il faut parler sango. Comme ça, on peut diminuer un peu les prix, tout ça. Bon, dans certains cas, du coup, aussi, il y a des gens aussi qui pas sango, donc on est obligé de parler français. C'est ça. Et à la maison, avec mes enfants, il y a un temps où je peux leur parler français, il y a aussi un moment où je peux leur parler sango. Ça dépend. Bon, c'est ça.
Dans votre vie de tous les jours, quelle est la langue que vous utilisez le plus souvent?
Oui, c'est le sango, parce que moi je suis le genre, c'est le sango qui est le plus couramment.
Est-ce que vous pensez que si vous vous retrouvez avec d'autres personnes d'autres pays africains, francophones, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de parler français parmi ces différentes personnes?
C'est tout à fait, mais il y a quand même une différence. Donc, quand tu rencontres par exemple un Camerounais, une Camerounaise, c'est tout à fait, il y a une différence. D'ailleurs, par le temps de parler, tu rencontres une Gabonaise, c'est tout à fait une différence. Ouais, c'est ça, une différence.
Et le Centrafricain, qu'est-ce qui caractérise la manière de parler français du Centrafricain?
Le plus grand problème, c'est que nous, on n'est pas French indépendance, mais en français. Le grand problème, c'est ça. Et il y a aussi la timidité qui est là, et il y a aussi le niveau de la scolarisation. C'est ça. Hein? Ça joue chez nous, quoi, de parler français. C'est ça. Comme par exemple au Cameroun, au Gabon, le français, c'est au bas âge. Tu commences à parler français pour la famille, au bas âge, et tu grandis avec. Même si tu n'es pas scolarisé, tu parles français parce qu'il n'y a pas une langue unique là-bas, une nationale choisie là-bas. Donc, ils sont obligés de parler français. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça parce qu'il y a une langue nationale chez le Sango. Donc, tout le monde est basé sur le Sango. Donc, pour s'exprimer en français, c'est tout un tas de problèmes chez nous.
Si vous êtes en France, imaginez-vous que vous êtes en France et que vous rencontrez un autre Centrafricain, commencez à discuter avec lui et sans savoir son origine, est-ce que vous savez le reconnaître en tant que Centrafricain uniquement par sa manière de parler français?
Je peux le reconnaître par le ton.
Alors, autre question en ce qui concerne le Sango, quand les Centrafricains parlent Sango, est-ce que vous pouvez savoir quelle est leur langue, quelle est leur ethnie par leur manière de parler Sango?
Tout à fait normal. Moi, quand je parle Sango, il y a quand même un ton, il y a un accent, il y a comment qui sont là-dedans. Si il y a un Banda qui parle Sango, automatiquement je dois savoir. Je sais que c'est un Banda qui parle là. Si c'est un Banda qui parle, je sais parce qu'il y a des accents. Il y a des accents qui sont là-dedans.
Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Il y a combien quand tu parles français, quand tu parles sans mot, quelles sont les caractéristiques de ce dont on parle?
Vous savez, madame, la langue sans mot, ça rentre beaucoup dans le yakoma. Le sans mot est traduit à la place du yakoma. Hein? C'est ça. Bon, quand on parle sans mot, donc, c'est pas comment dire. Hein? Bon, par exemple, je dis,
le sango est issu du yakuma.
Le yakuma. Le sango est sorti de le yakuma.
Et le bansi.
Le bansi aussi sont des rivières, en dehors de l'intérêt. Mais ils sont basés un peu par les ethnies
bakas. Le yakuma, ce sont les gens d'arrière. Est-ce que c'est, je pense, ça va lui dire quoi dans l'histoire de Centrafrique, quand les colons français sont arrivés, ils sont remontés par la rivière, ils ont rencontré les habitants de la rivière. Est-ce que c'est clair?
Oui, il y a aussi des sociétés. Ce sont des Yakoma, des Tanzanie, comme vous dites tout à l'heure, des Mbata, nous sommes des riverains.
Donc c'était traditionnellement des pêcheurs, c'est ça?
Et nous, par exemple, sont des grands pêcheurs. Voilà, ils sont des pêcheurs. Ils mangent souvent que des poissons. Ils n'aiment pas les viandes. Pas tellement les viandes. Ils mangent beaucoup de poissons. Mais nous, dans notre ethnie, on mange beaucoup de poissons.
Ouais. C'était des personnes qui avaient des pirogues et qui naviguaient.
C'est ça.
Mais là, on nous dit qu'on ne peut absolument pas aller sur le fleuve à cause de Maniwata.
Le problème de Maniwata, puisque moi, je n'ai pas vécu, moi, je ne connais rien là-dedans. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vécu.
Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est réel?
J'ai entendu seulement que c'est réel, mais je n'ai pas vu. Je n'ai jamais vu, donc je ne peux pas savoir.
Étant donné que vos ancêtres étaient pêcheurs et tout ça, ça s'est bien passé, bon ben.
Ils sont des pêcheurs, mais je n'ai pas beaucoup vécu avec eux pour savoir ce qui se passe réellement. C'est pas grave.
C'était juste une digression en fait. Hein. C'est juste une digression parce que c'est le genre de choses qui m'étonne un peu ce type d'histoire. Ouais.
C'est ça.
Bon, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours, hein? Vous avez vécu toute votre vie, je vois bien, vous êtes marié, vous avez des les enfants, est-ce qu'on pourrait réciter un peu entre nous?
Ouais, merci bien. Donc, j'ai fait l'école, j'étais chez mon père, j'ai fait l'école, j'étais en classe de première, et j'avais déjà rencontré mon mari, il venait faire chemin de l'université, il a fini de l'arriver, on s'est connus, une année après, je lui ai dit, il faut aller voir mes parents. Donc, il s'est décidé d'aller voir mes parents. Quand je montais en terminale, il avait fait la route, il avait l'argent, avec ce que les parents devaient en demander, il a fait la route. Automatiquement, j'étais en grossesse de mon premier fils. Et j'ai accouché en poste terminale. Bon, quand j'ai accouché, pour éviter une réunion, ça devient encore maintenant tout un tas de problèmes. Donc l'enfant est là et j'ai raté mon bac. Deuxième année encore, j'ai raté le bac. Je me suis dit, ah, ça devient un moment sérieux. Après, aussitôt après, il est reparti en France encore pour faire son BCS à Orléans. J'étais à l'essai. Avant d'avoir loué une maison, après, je me suis retourné chez mes parents. Quand je suis parti en France, je me suis retourné chez mes parents. Je me suis dit, mais ah, alors là, comme j'ai raté le bac, deux fois là, c'est pas normal. Scolarité, mais il était très sévère là-dedans. Là, je me suis mis à bosser, et là, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac, et j'étais rentré, il était automatiquement. Un an après, il est rentré, donc je me suis inscrit à l'université. Ça s'est bien passé, donc on a encore loué encore une petite maison. En ce temps-là, j'ai fait encore le deuxième garçon. Bien, à la fin des études comme ça, on peut préparer à faire des examens. Voilà, là, les branches qui tombent. On est en train de faire un truc avec le suivant encore, on a repris jusqu'à la période des examens. On piquait encore la mémoire. Là, je me suis dit, on sait que. Donc, on allait venir, mais c'est un stagiaire, on a mangé de rien faire, on a. On peut encore déjà la bourse, parce que c'était très difficile dans le foyer. Moi, je me suis coupé pour aller chercher un boulot. Dieu merci, j'ai trouvé un boulot à la société libertaire qui prenait des bouquins aux fonctionnaires et puis on peut compter sur leur salaire. Donc, on a payé aussi très bien les bacs. On a payé 150 000 francs. Donc, c'était bien. Là, ils ont fait deux ans là-bas, troisième année maintenant, comme il y a trop de problèmes, on a autant de problèmes dans la société. Le premier mois, ça, voilà. La société est obligée de fermer, donc ils sont rentrés au Gabon. Mais comme ça, donc, je suis resté encore à la maison, j'ai commencé à chômer. Je me suis allé s'inscrire pour faire l'informatique. Voilà, je me suis inscrit, j'ai fait l'informatique une année. Et puis, j'ai écouté une annonce ici à l'université pour demander. Il y a un projet canadien qui devait venir. J'ai écouté l'annonce, j'ai fait ma demande, j'ai déposé sur l'université. C'est au temps de recteur Mali. On m'a aussi parvenu ici, donc je dis ben voilà, comme j'ai travaillé de l'avant, j'étais retenu, on était deux. Donc ils ont fait une communauté à la radio au moment où je suis venu, on a dit que voilà, c'est très bon, donc on a de recrute. Donc on a recruté ici, j'ai travaillé au secrétariat général. Comme stagiaire, trois mois après, et puis on a confirmé. On a confirmé que c'était bon, j'ai travaillé avec M. Latour, le ministre de la Culture de l'État, le secrétaire général. Et de temps en temps, j'ai travaillé au rectorat avec le professeur Marie. Finalement, on a confirmé, et quelques années plus tard, le programme a été fait. On a été fait. Finalement, c'était de l'électro de politique en ministère, comme là, au temps de passer, donc. On est obligé de faire un mouvement pour le balancer quelque part. Parce que les gens disaient que je suis RDC, je me suis dit, mais non, je n'ai jamais lutté là-bas. Hein. Donc, c'est pas grave, là, c'est politique, c'est pas grave.
C'est quoi le mois, c'est un Yakoma, c'est un Yakoma.
Alors, on confondait tous les Yakoma que sont les parents qu'on a. Donc, finalement, on a fait
m'intéresse un peu. Donc, c'est-à-dire que bon, je sais très bien qu'il y a une connaissance africaine, énormément de groupes ethniques différents, mais c'est-à-dire quand même qu'il y a eu une certaine discrimination par rapport aux ethniques qui est ici.
Est-ce que ça ne manque jamais? Ça, ça.
Les enfants sont dans des écoles privées,
c'est dans les écoles privées.
Et du coup, ils n'ont pas touché pareil.
Alors, non, souvent, ils sont à l'école, ils sont à l'école. Et aussi, des précepteurs, ils ont dit que c'est pas la maison pour les enfants.
Ok, donc c'est intéressant, je pourrais répéter surtout sur les différents précédents. Vous vous souvenez de combien de précédents sont africains? Vous vous souvenez? Quel président est-ce que vous vous souvenez était au pouvoir?
Ce sont des poussins, des deux poussins. Ce sont des deux poussins. Après, la première fois, il y a deux ans passés, et puis, c'est Sarawé. Et puis, après, les ans passés, c'est deux ans Bozézé. Par exemple, aussi, ce sont des poussins aussi. Bozézé et Patassé aussi, ce sont des poussins.
Moi, je pense que la Centrafrique, ce n'est pas un pays très connu à l'étranger, mais est-ce que tout le monde va connaître? C'est Bokassa. Je pense qu'il est très connu dans le monde entier.
Oui, c'est ça. L'histoire de Bokassa, il est très connu, c'est par rapport peut-être dans le traité de cannibale, parce qu'il mangeait des gens. Mais si c'est vrai, puisqu'on a connu à travers ces domestiques, les maîtres qui préparaient à manger. Et c'est après le procès de Bokassa.
Vous vous souvenez de couronnement?
Couronnement, bien sûr. Bien sûr, j'étais en classe de. Je vous disais tout à l'heure, je suis quand même quatrième. Bon, comme moi, je suis religieuse, à l'église Saint-Sauveur, on nous a pris, donc on peut préparer le couronnement. La messe du couronnement, moi aussi, je chante. J'ai chanté.
Réagissait quand même en disant c'est pas chaud, on peut être pensé autrement. Est-ce que les gens les vénéraient tellement qu'il n'y avait pas de questions?
Vous savez, madame, alors, à cette époque-là, les gens ne connaissaient pas ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que le faire la grève. Donc les gens ne connaissaient pas ça. C'est grâce aux étudiants et aux étudiants qui ont manifesté parce qu'ils n'étaient pas les gens.
Du couronnement, quelle était la situation à ce moment-là?
Bon, au moment du couronnement, c'était après son couronnement qu'on commençait à faire des aérés. Papa commençait à avoir des aérés, mais ça allait avoir des aérés très bien. On n'a pas de problème, non, mais après le couronnement, on a commencé à avoir des aérés.
Mais oui, c'est assez étonnant quand même que les peuples n'ont pas réagi au moment. Donc, au moment du commandement, les gens l'admiraient, c'est ça?
L'admiraient comme le plus bon président, c'est notre président qui est là. Donc, il le comparait au empereur Napoléon, tout. D'abord, il y a des chansons qui sont là. Donc, les gens étaient très contents.
Qu'il y avait plusieurs femmes de plusieurs pays aussi.
Bon, là, comme j'étais encore un peu, j'avais ce moment très important, donc, en ce que je sache, ces pays-là, il y a beaucoup de femmes, hein, surtout en Bandi, il y a beaucoup de femmes.
C'est intéressant pour l'histoire. Bon, parlons d'autre chose, là, comment est-ce qu'on voit, bon, actuellement, il y a aussi des je pense, dans 5 ans, comment sera la révolution profondeur dans 5 ans?
Si ça va se passer dans 5 ans, ça va continuer. Il faut quand même y ait un changement. Au niveau du dirigeant des pays, il faut qu'on change.
serez président de la République pour une journée, qu'est-ce que vous ferez?
Pour la République, je lui permets maintenant, puisque là, je suis dedans. Je lui permets. Je lui permets.
Si vous étiez président, si vous étiez président, président.
C'est un problème, c'est que ce n'est pas votre essai. Il faut essayer de voir avec les gens. Il ne faut pas travailler. Le problème, c'est qu'il ne faut pas travailler seul. Et il ne faut pas travailler avec les ethnies de même région. Le problème, c'est que tu mets au pays, c'est ça. Essayez de mobiliser tout le monde, essayez de travailler avec toutes les ethnies. Toutes les ethnies. Ça peut marcher. Mais le grand problème de ce pays-là, les gens ne travaillent pas souvent avec leur ethnie. Mais le pays qui n'a pas de tuteur, qui n'a pas de ses parents, qui vient de l'autre, d'un autre côté. Alors, le travail, tout est foutu. C'est pas ça. Il faut essayer, il faut travailler avec toutes les ethnies. C'est ça.
Donc, si vous étiez président politique, vous essayez de travailler sur l'unité nationale.
L'unité. L'unité de tous les peuples. Vous essayez de voir, mais de rassembler tout le monde. Hein, partager le pain avec tout le monde.
C'est ça.
Voilà. Et l'unité, ça dit beaucoup de choses. Hein. C'est pour vous la dire. Mais malheureusement, on ne suit pas.
Vous pensez que ça, c'est l'un des grands défis, c'est l'unité nationale.
Voilà, c'est ça, madame, c'est ça.
Et vous-même, quand vous voyez votre année, dans 5 ans, où est-ce que vous serez?
C'est ça aussi, en 5 ans. Moi-même, je me pose la question, quand je prends l'argent aujourd'hui, tout est foutu. Je fais mettre pas d'économie. Parce qu'il y a trop de problèmes pour cet argent. Il faut reprendre ça, il faut reprendre ça, il faut reprendre ça. Je prends un peu, je mets de côté, en cas de quoi, en cas de requête, ça te permet de soutenir avec quoi. Je ne sais pas ça, parce que ces trois personnes-là sont nommées vraiment, c'est insignifiant pour la famille. Donc moi, personnellement, je me pose la question de savoir comment je serai en requête, ce que je vais faire. Donc, actuellement, on est obligé de faire des choses à temps de la maison, on est obligé de vendre des petites choses à la maison.
Ça, j'ai l'impression que presque tout le monde il fait un petit commerce à côté.
À côté, oui, c'est ça.
Et vous, vous faites quoi?
Moi, à la maison, j'ai une cabine téléphonique, la maison que j'ai installée devant moi. Et je vends aussi des bissapes, des jus de bissapes. Je vends aussi de l'eau, je fais des glaces. Voilà. Et je vends à des gens qui. Voilà.
Ça permet d'apporter un peu.
On a besoin de ça. De fait, j'envoie pas d'argent. C'est une pétition. À payer la dame, la vie, acheter des bijoux. Je vends ça à la coopérative. Ça me rapporte un
peu. Finalement, c'est ce que tout le monde fait. Et les petits commerces comme ça, c'est qu'on n'est pas obligé de payer des impôts.
Non, les petits commerces, c'est comme. Même la cabine téléphonique que j'ai installée chez moi, là, on ne peut pas les impôts. Peut-être après, je ne sais pas comment.
Tu veux dire qu'il y a deux économies parallèles en fait.
Oui, c'est ça. C'est
intéressant.
Mm-hmm.
Bon, je vous remercie beaucoup de